je te dirai, oh, je t'aime, Shiloh.
Est-ce que je peux voir votre Bible, s'il vous plaît? C'est qui en nom? Est-ce que je peux voir votre Bible? Rappelez-vous que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera des fruits. Un autre verset dit, c'est par le fruit des lèvres. Le fruit des lèvres, ce sont des paroles qu'un homme rassasie son corps. Et Jésus ajoute, par vos propres paroles, vous serez soit justifié, soit condamné. Dites au voisin, alors parlez bien. Dites-lui, s'il vous plaît, parle bien. On y va, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter aujourd'hui, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une semence incorruptible de vie. Et mon cœur à moi est une terre fertile. Je produirai des expériences surnaturelles. Je le crois, ainsi je l'ai déclaré. Au nom de Jésus-Christ, de qui vient le plus grand amen et qu'il reçoit la plus grande bénédiction. Nous avons aujourd'hui une très très longue lecture avec un peu de commentaires que je fais. Ça nous a pris à peu près 20 minutes de lecture au premier culte. Bon, là, parce qu'il y avait aussi l'interprète, on a donc partagé le temps. Je pense que ça sera la moitié de ce temps, mais je vais commenter ici et là. Dans le livre des Juges, lorsque vous terminez les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, vous arrivez dans le livre de Josué. Après Josué, le 7e, c'est le livre de Juges. Et le chapitre 20 est celui qui vient après le chapitre 19. Vous avez trouvé? Je vais lire pour vous et je vais commenter de temps à autre. Mais j'aimerais que vos yeux soient branchés sur votre Bible et que vous puissiez vérifier de vous-même. Si je change quelque chose, je ne le dis pas bien, vous me corrigez tout de suite. Vous avez trouvé? Juges chapitre 20, du premier jusqu'au dernier verset, il est dit ce qui suit. Tous les enfants d'Israël sortis de Pidan jusqu'à Beersheba et au pays de Galaad. Et l'ensemble s'est réuni comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Le chef de tout le peuple et toute la tribu d'Israël s'est présenté dans l'ensemble du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Combien? Et le fils de Benjamin apprit que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent parler comment ce crime a-t-il été commis. Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, j'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyé dans tous les territoires de l'héritage d'Israël car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Tout le peuple s'éleva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Cela veut dire la dîme, hein? Donc on prélève 10 sur 100, 100 sur 1000, 1000 sur 10 000, ça c'est la dîme. Et ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville et n'y comme un seul homme. Le tribu d'Israël envoyèrent des hommes vers toute la famille de Benjamin pour dire, qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulaient point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibeah pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ces jours des Benjamites sortis des villes fit de 26 000 hommes. Ça fait combien d'hommes? Les autres étaient à combien? Est-ce qu'on peut répondre? C'est combien ici les Benjamites? Et c'est en face de les enfants d'Israël sont combien? Soulignez cela. Tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibeah, forma 700 hommes d'élite. Parmi tous ces peuples, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tous cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans les compter. Ça mérite un commentaire. Ces gens sont extraordinaires. 700 hommes parmi les enfants de Benjamin. Mais ils habitaient à Gibeah de Benjamin. Ils étaient des lanceurs de frondes. Et ils étaient experts à la chose. À telle enseigne, la Bible dit qu'ils pouvaient juste viser un seul chevet avec une fronde et ne pas la rater. Est-ce que vous vous rendez compte de la précision et de leur efficacité? Juste pas la tête de quelqu'un, juste un seul chevet. Et il est au loin avec sa fronde, il lance la pierre et il ne rate pas. Ce sont des gens très très dangereux. Dites aux voisins, ce sont des gens très très dangereux. Je fais une déclaration qu'il n'arrive pas parmi des gens qui te combattent, cette espèce d'homme dans les camps de tes ennemis, que cela n'arrive pas. Comment toi tu ne reçois pas cette amen? Tu ne comprends pas la gravité de la chose. Si tu combats et que dans les camps de tes ennemis se trouvent ce genre de personnes qui ne peuvent pas rater un seul chevet, dites au voisin Banama Bebenza. Au nom de Jésus. Je fais cette déclaration. Toutes les fois qu'on complotera contre toi, qu'il ne se trouve pas cette race de gens dangereux qui ne rate pas un seul cheveu de la tête. Si un se trouve, qu'il puisse se désolidariser avec tes ennemis et qu'il soit de ton côté, je le déclare au nom de Jésus. Dites au voisin Banama Pepenza. Comment quelqu'un peut lancer une pierre, juste un chevet? Quel tireur! Ils étaient à combien? Et c'était des gauchers. Des gens qui utilisent la main gauche. Bon. Verset 17. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non complices de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 tirant le paix, tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël s'élevèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre le fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Juda montera le premier. Il y a 12 tribus en Israël et même sur le plan spirituel, nous avons 12 tribus. Moi, j'ai choisi de faire partie de la tribu de Juda. Chacun est libre de faire son choix. Tu peux être dans Gad, dans Ephraïm, tous sont enfants d'Israël. Mais dites au voisin, Dadi est de la tribu de Juda. Demande au voisin, et toi tu es de quelle tribu? Dieu dit, Juda montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibeah. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Ils se rangèrent en bataille contre et devant Gibeah. Les fils de Benjamin sortirent de Gibeah et ils étendirent sur le sol ces jours-là 22 000 hommes d'Israël. Vous pouvez comprendre que ces 700 hommes étaient des gens. Dites au voisin Banama Ben. De ce côté-là, il y a 400 000. De l'autre côté, ils ne sont qu'à 22 000. Mais il tua combien? Il tua combien? Le peuple, verset 22, les hommes d'Israël reprirent courage. Et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés les premiers jours. Et les enfants d'Israël montèrent et ils plairèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibeah à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant le paix. Il tue encore combien? Ce ne sont pas des garçons de la chorale, hein? Ce sont des soldats dans l'armée d'Israël. Et le total fait combien pour les deux jours? Le total fait combien, s'il vous plaît? Allons-y. Parce que de l'autre côté, il y avait Banamabé. Ces jeunes gens qui, de la main gauche, tiraient avec leurs fondes et qui ne pouvaient pas rater un seul cheveu. Ce qui me choque dans ce texte, c'est que les enfants d'Israël, pas seulement qu'ils sont plus nombreux, mais en plus, ils ont l'ainsi dit l'Éternel. Comment ces gens peuvent être dangereux? En tout cas, si des gens comme ça, de cette race, complotent contre toi avant le matin, que Dieu les tue en sommeil, comme ça tu seras en paix. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent vers à Bethel. Ils plairèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils gênèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui s'était né à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je le livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Et les enfants d'Israël montèrent contre le fils de Benjamin. Le troisième jour, ils se rangèrent en bataille devant Gibéa, comme les autres fois. Et le fils de Benjamin sortit à la rencontre du peuple. Et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois. Sous les roues dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne. Et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Le fils de Benjamin disait, le voilà bâti devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirez-le loin de la ville dans le chemin. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était de Marée Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 35, s'il vous plaît? Tout l'ensemble, je compte 1, 2, 3, nous lisons le verset 35. 1, 2, 3. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Et les enfants d'Israël tuèrent ces jours-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Vous voyez, qui a bâti Benjamin? Est-ce que c'est Israël? Qui les a bâtis? On y va, verset 36, on y va ensemble. Le fils de Benjamin regardait comme bâtit les hommes d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sous l'embuscade qu'ils avaient placé contre Gibéa. Allons-y, 37-38. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sous Gibéa. Et ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, c'est de l'embuscade devait faire monter de la ville une épaisse fumée. 39-40, allons-y. Les Benjamites leur avaient tué environ 30 hommes. Et ils disaient, certainement les voilà bâtis devant nous comme dans le premier combat. Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Le Benjamite regardait derrière et voici de la ville entière. Le flamme montait vers le ciel. Est-ce qu'on peut lire 41 jusqu'à la fin? On y va. Et ces deux Benjamin furent épouvantés en voyant les désastres qu'ils allaient les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas. Et il détruisit pendant les trajets ceux qui étaient sortis de ville. 43. Ils enveloppèrent Benjamin, les poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer, jusqu'en face de Gibéa, du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en furent péris 5 000 sous les routes. Et ils les poursuivirent jusqu'à Gibéon et ils en tuèrent 2 000. Le nombre total de Benjamin qui périt ce jour-là fut de 25 000 hommes, tirant le peuple tous vaillants. 47, lisez 47. Je n'entends rien, on recommence. Lisons le verset 47, s'il vous plaît. Attendez. Qui peut imaginer qui sont ces 600-là? qui peut imaginer qui sont les 600 là. C'est parmi les 700 là. Dites au voisin, Banamabe. Même quand la guerre barre, tous ne peuvent pas mourir, 600 ont fui. Dites au voisin, Banamabe. Tu ne le dis pas bien. Tu ne sais pas parler lingala. Tu peux juste m'imiter. Dites Banayamabe. Verset 48, on y va pour terminer. Les hommes d'Israël rêvèrent vers le fils de Benjamin. Et ils le frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes de ville jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Qui donnent un amen à ces longs et grands textes. En tout cas, la lecture a été très très longue, n'est-ce pas? Alors, fais comme ça. L'autre côté. Faisais comme ça avec des pieds. Faites avec des pieds. Tournez bien. Faites. Est-ce qu'on peut commencer à prêcher maintenant? Et écoutez, cette semaine, j'ai 50 réunions. Au lieu de vous prendre un séminaire de mardi à vendredi pour clôturer dimanche, ça fait 5 jours, je préfère ne pas bousculer vos calendriers et je reste dans les calendriers normaux de l'église. Mais je fais 50 réunions. C'est genre de réunions qui changent de destinée et qui engendrent des témoignages. Qui propulsent les gens dans leur prochaine dimension et dans l'étape où Dieu les attend. Je les commence, j'introduis aujourd'hui. Je parle de l'ordre de Melchisédek. Le mardi, je suis là à 16h30 et non pas 17h30. Et le mardi, je vais parler la gloire de l'adoption. Dites avec moi, la gloire de l'adoption. On ne rate pas ces réunions, on ne rate pas ces choses. Vendredi à 16h30, je reviens pour la troisième réunion et je vais parler la miséricorde triomphe du jugement. Quelqu'un dit avec moi, la miséricorde triomphe du jugement. Et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, le matin, ça sera ma quatrième réunion. Je vais parler le sacrificateur sur son trône. Dites au voisin, le sacrificateur sur son trône. Je n'entends pas. Dites à haute voix, le sacrificateur sur son trône. Est-ce que je suis cohérent? Je suis cohérent? Non. Les sacrificateurs sont liés. Le travail, ce n'est pas le trône, c'est l'autel. Mais je vais vous expliquer. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, dites au voisin, le sacrificateur sur son trône. Et enfin, je reviendrai dimanche prochain le soir pour un culte spécial de Sainte-Seine afin de clôturer cette série. À partir de 17h, un culte de 45 à 1h. Et là, je vais parler brièvement. Si tu as mangé ce qui lui appartient, il reviendra encore. Dis ton voisin, si tu manges ce qui lui appartient, il reviendra encore. Avec sourire, dis ton voisin, si tu manges ce qui lui appartient, il reviendra encore. En tout cas, je vous promets 50 réunions. Ça sera des réunions prophétiques, des réunions de puissance, des réunions de sagesse. Je vais parler de l'ordre de Melchisédek avec les sous-thèmes que j'ai énoncés. Vous ne resterez plus jamais la même personne. Essayez de frayer un chemin, d'aménager votre calendrier pour venir. La présence, la gloire de Dieu sera intense dans cet auditoire. Qu'il y a des gens qui n'attendront pas une prophétie, mais sous l'adoration. Oh, j'aime ces réunions, je les commence ce matin. J'aime ces réunions de gloire. Ça sera plus que la montagne de Golgotha. Des témoignages, des miracles vont s'en suivre. Et avant qu'on arrive le dimanche prochain, le soir, les gens vont ramasser des miracles dans leur rue, dans leur lieu de travail, dans leur sommeil, dans leur travail. Que ça commence avec toi et que ton texto m'arrive demain. Reçois ça au nom de Jésus. Tape la main de voix et dit des réunions très dangereuses. Dites, nous allons nager dans la gloire et dans l'onction. J'ai dit, bon, ça je vais vous dire après. Mais laissez-moi commencer. Laissez-moi commencer. Il y a là une guerre fratricide. Parce qu'on ne dit pas une guerre fraternelle, il n'y en a pas. Entre les enfants d'Israël, d'une part c'est la tribu de Benjamin, d'autre part c'est les 11 autres tribus. Ils se sont combattus. Et lorsque vous faites tous les calculs, vous verrez que le bilan s'élève presque 80 000 ou 70 000 personnes qui sont mortes. Juste 3 jours de bataille. Mais c'est entre frères. Et les batailles les plus dangereuses, c'est lorsqu'il est question de bataille entre frères. Lorsqu'une guerre, c'est un pays contre un autre, ce n'est pas trop grave. Dans le sens où, si une guerre est civile, une province, une tribu, où les habitants d'une même nation commencent une guerre, celle-là, elle est trop dangereuse. Et c'est ce qui arrive dans ce texte. Mais laissez-moi reconstituer le background de l'histoire pour vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe. Tout commence avec un Lévite et il m'énerve cet homme. Parce qu'en Israël, la tribu de Lévi est mise à part par Dieu pour le service du sacerdoce ou du sanctuaire en général. Et c'est de cette tribu que Dieu choisit la famille d'Aaron à qui il confie le sacerdoce. Mais toute la famille s'occupe de tout ce qui est maison de Dieu. Raison pour laquelle Dieu ne leur donne pas d'héritage en Israël lorsqu'il est question de partager la terre promise. Mais Dieu dit, ils n'auront pas d'héritage. Vous savez pourquoi, Maman Jos? Parce que si on leur donne une province, toute la bénédiction et la gloire et la présence de Dieu ne sera que dans une seule province. Parce que c'est elle la tribu qui porte la gloire de Dieu. Il ne doit pas avoir de province, il doit être dispersé dans les autres tribus. Qu'on les trouve partout. Et partout ils sont, ils peuvent alors faire bénéficier à tous les territoires et à toute la nation la bénédiction de Dieu. Mais c'est ce Lévite qui m'énerve parce que l'histoire commence. Ce Lévite a eu une concubine. Certaines versions que j'ai consultées, j'en ai consulté plusieurs. Si vous avez une version différente de lui, c'est donc cherchez, vous trouverez. Donc même les traducteurs de la Bible souffrent pour soulager ou couvrir le péché de ce Lévite. D'autres parlent d'épouse de second rang. Ça veut dire quoi, épouse de second rang? D'autres parlent de compagnes de fortune. D'autres parlent de... Vous voyez, parce qu'un Lévite avait une concubine. Lui qui était censé être un modèle. C'est lui qui nous crée tous ces problèmes. Et les 80 000 hommes qui vont tomber dans la suite, tout cela repose à cause de ces Lévites. Et pourquoi il n'a pas épousé? Je le fais au premier culte et je lance le même appel. Vous voyez, les diables ne respectent pas la loi et l'ordre. À combien plus forte raison, là où il y a le désordre et la loi est violée. Déjà, vous êtes en ordre, vous craignez Dieu, tout est en ordre, mais il vous bouscule, il vous attaque. À combien plus forte raison si vous lui laissez de tout et de péché, de désordre dans votre vie. J'encourage et je le crois, je le prêche. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je ne condamne personne. Mais j'encourage tous ceux qui vivent en union libre qu'il est correct de régulariser les choses. Et je vous promets, lorsque vous voyez nos conseillers conjugaux pour la régularisation, je vous ferai une très belle cérémonie. Si vous n'avez jamais payé de dot, allez-y payer. À moins que la tribu de votre compagne n'accepte pas de dot. Mais là encore, vous avez besoin du consentement des parents. Et après la dot, allez à l'état civil. Et que votre mariage soit civilement reconnu et couvert par la loi. On ne sait jamais ce qui arrive dans la vie. La Bible dit que le magistrat ou le pouvoir public est établi pour notre bien. Et lorsque vous aurez fini à l'état civil, venez à l'église. Même si vous avez 29 ans de mariage, autant d'enfants et même de petits-enfants, venez, je vous ferai une très belle cérémonie et ça je promets. Ne prenez pas juste une fille et puis vous vivez ensemble. N'ayez pas ces relations qui ne sont pas définies. Tu dois présenter quelqu'un toi-même, tu n'as pas de mots exacts. Et voilà, ce qui arrive avec ces Lévites, c'était sa concubine. Ça ne devait pas être ainsi. Et parce que c'était sa concubine, écoutez la suite. Cette femme se prostitua. Et lorsqu'elle se prostitua, elle décida de retourner chez son père à Bethléem de Juda. Elle n'avait pas besoin d'attendre une lettre de répudiation. Comme Moïse l'a prescrit, qu'en cas d'adultère, vous donnez à la femme une lettre pour la répudier. Parce que la dot n'avait jamais été versée. Elle décide elle-même de repartir comme elle est venue. Mais les Lévites aimaient tellement sa concubine Et Lévi décida d'appliquer la loi de Christ. Elle supérieure à la loi de Moïse. C'est la loi du pardon et de l'amour. Lui qui était offensé, il décide de suivre la femme chez son père. Lui qui normalement devait rester à attendre son beau-père, entre guillemets, ramener la concubine et peut-être une chèvre d'amande. Mais c'est lui qui décide de partir. Il prend son serviteur, il prend des animaux de somme. Et ils ont fait une longue marche. Si vous regardez sur votre carte, la tribu d'Éphraïm est au nord. Et la tribu de Juda, Bethléem, c'est au sud. Il a traversé en longueur tout le pays d'Israël. Et il arrive à Bethléem. La Bible dit qu'il sut parler au cœur de sa concubine pour le convaincre encore de retourner. Et son beau-père, en guillemets bien sûr, était très content. Il l'accueille chaleureusement. Il y a très peu d'hommes qui peuvent agir de cette manière-là. Il y a très peu d'hommes, ils sont de pièces rares. Et quand on en trouve, on le célèbre. Son beau-père l'a donc célébré, a donné un festin à son honneur. Et puis finalement, les jeunes hommes décident de s'élever pour retourner chez lui. Son beau-père dit, tu ne partiras pas, repose-toi encore. Et puis tu vois, il avait en quelque sorte une dette morale à cause de ce que sa fille a fait. Il les retient un jour, un deuxième jour, et puis finalement le troisième jour, le Lévite s'élève, il dit, je dois partir aujourd'hui. Son beau-père insiste, il dit, je dois partir. Et il prend sa concubine. Et puis son serviteur, il se met en route. Ils arrivent quelque part à Jebus. Jebus, c'est la forteresse de Jébusiens. C'est ce qui est dans la suite deviendra Jérusalem. Lorsque David prend la forteresse de Jébus, il change le nom, ça devient Jérusalem. Et là, c'est avant David, ils arrivent à Jébus. Son serviteur lui propose, dit, le soleil se couche déjà. Bientôt là, c'est la nuit et il n'est pas bon de voyager la nuit. Est-ce que nous pouvons ne pas dormir ici à Jébus et demain nous continuerons notre voyage? Écoutez la réponse du Lévite. Il dit, dans cette ville, il n'y a pas des enfants d'Israël. C'est une ville de païens, des incirconcis. Je ne passerai pas la nuit au milieu des circoncis. Poussons encore la marche. Et dans peu de temps, nous arriverons à Bethel ou à Gibea. Non, plutôt Rama. À Rama ou à Gibea. Et là, nous pourrons dormir parce que là, c'est au milieu de nos frères. C'est les enfants d'Israël. Ils ont forcé la marche. Et ils arrivent à Gibea de Benjamin. Et là, à Gibea, personne pour les accueillir. Alors que dans la loi de Dieu, même l'étranger doit être accueilli. L'hospitalité fait partie de la règle. Dans le principe de ce royaume, le visiteur, l'étranger, ne doit pas dormir dehors. Il ne doit pas manquer à manger. Mais pas seulement qu'il est visiteur, mais il n'est pas étranger, c'est leur concitoyen. Il arrive à Gibea. Personne pour l'accueillir, parce qu'à Gibea il y avait un enseignement selon lequel vous ne savez jamais qui vous recevez. Il peut être sorcier et puis il va envoûter vos enfants. Alors que la Bible dit, en exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont logé des anges. Je ne dis pas d'aller héberger n'importe qui, un bandit qui va ensuite violer vos filles. Et puis c'est pas ce que je suis en train de dire. Et là à Gibea, il va à la place publique. Supposons c'est le terrain municipal de Bandal. Il décide de dormir là, à la belle étoile. Alors qu'il se disposait à dormir, il voit un vieillard qui revient des champs. Ce vieillard habite à Gibea de Benjamin. Mais il est originaire d'Éphraïm. Ça, ce n'est même pas important, toutes ces différences. Peu importe la tribu dans laquelle vous venez, ils sont tous en Israël et enfants d'Israël. Mais la Bible donne cette précision. Il est Éphratien. Il vient d'Éphraïm. Mais il vivait à Gibea. Il voit le visiteur et dit, hey, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Le Lévite répond, je suis Lévite, je viens de Bethléem, je monte vers les montagnes d'Éphraïm, mais il n'y a personne pour m'accueillir chez lui. Il dit, mais non, viens chez moi. Et le vieillard l'amène chez lui, il fait entrer, il lui donne à manger. Parce que d'ailleurs, le Lévite précise que je ne serai même pas à votre charge parce que j'ai la nourriture est pour moi et pour les bêtes. Et ce vieillard dit, non, viens avec moi. Il entre chez lui à la maison. Il lui a donné à manger. Et pendant ce temps, ils étaient en train de parler. Des voyous, des hommes pervers de la ville viennent. Ils entourent la maison. Ils commencent à crier, faites-nous sortir cet homme qui est entré dans ta maison. C'est un visiteur. Certainement qu'ils l'avaient vu, ils avaient un plan pour le dépouiller. Maintenant qu'ils ont vu quelqu'un, le berger, il vient leur dire, faites-nous le sortir. Nous voulons les connaître. Et le connaître qu'il y a là, ce n'est pas la connaissance, connaître son nom, c'est avoir des relations intime avec lui. Mais qui demande ça? Ce sont des hommes, pas des femmes. Ce sont des pratiques de Sodome et Gomorre. Mais là, ça se faisait à Gubéa. Il dit, nous voulons le connaître. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Lisez dans votre Bible, c'est la réponse de ces vieillards. Ces vieillards disent, ne touchez pas à cet homme. Dis-moi, j'ai une fille vierge. Et lui a une concubine. Nous vous donnerons, vous en ferez ce que vous voulez. Mais n'osez pas faire ce que vous voulez faire à cet homme. Ces gens forçaient la porte, ils sont entrés. Ils ont pris la concubine de ces Lévites. Ils l'ont amenée. Ils l'ont violée toute la nuit, toute une bande de personnes. Ils en ont abusé toute la nuit et vers le lever du soleil. Ils ont laissé la pauvre femme à trimballer. Et puis finalement, elle tombe devant la porte de la personne qui les a accueillis. Et le matin, les Lévites se lèvent. Ils sortent de la maison. Il vient réveiller sa femme et dit, madame, lève-toi, prends courage, continue notre route. Et madame ne réagit pas. Il les bouscule. Madame ne réagit pas. En fait, elle est morte de ses viols. Et tout cela s'est fait à Gibeah, en Israël. Et son mari le prend. Il le met sur l'âne et il continue son voyage. Avant que je ne continue l'histoire, et alors pourquoi il a posé la question? Pourquoi, papa, Ghislain, dites-moi, pourquoi il a refusé de dormir à Jebus alors? Il aurait fallu qu'il dorme à Jebus et que les Jebusiens nous fassent ça. Ça, c'est compréhensible. Parce qu'ils sont des païens, ils n'ont ni loi, ni morale. Ils ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est une pilule amère, mais elle est encore... On peut l'avaler quand même, si ce sont des Jebusiens. Mais lui a dit, nous ne dormirons pas au milieu des païens, des Jebusiens. Nous irons jusqu'à une ville des enfants d'Israël. Parce qu'il sait, quelle que soit la dépravation qui arrive, il y a des normes en deçà desquelles les enfants d'Israël n'arriveront jamais. Et en plus, il dit, c'est mes frères. Mais regarde ce qu'ils ont fait. Oh, vous savez, je suis choqué. Si quelqu'un s'efface ce matin, je l'autorise à m'arracher les micros et puis il me jette. Non, là, il y a des fils barbelés. Vous me jetez par là. Et puis, le culte sera fini. Il y aura quelqu'un pour finir le culte. Et puis, nous serons partis. Si vous n'arrachez pas les micros, je ne vous laisse pas partir. Je vais vous prendre de votre temps et puis de verser tout ce qu'il y a dans mon cœur. Parce que je ne comprends pas. Dans l'église, vous trouvez des méchancetés qui ne se trouvent pas dans le monde. Au milieu des chrétiens, dans une assemblée comme reçue, et nous sommes là, vous trouvez de la haine, de la méchanceté, de la colère, de jalousie. Oh mon Dieu, comme vous ne trouvez même pas dans le monde. Il y a des gens qui dans le monde avaient des cercles d'amis. C'était meilleur que ce qu'il y a à l'église. Il y a beaucoup de méchanceté dans lesquels des gens ne se supportent pas, ne s'aiment pas. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de combats, beaucoup d'hypocrisie et de rise à l'église. J'aurais voulu qu'ils dorment à Jebus et que les Jebusiens, je ne pense même pas qu'ils allaient en arriver là. Mais il a dit, je dormirai dans l'une des villes de mes frères. Mais voilà ce que ces frères ont fait. Oh, à l'église, vous, je ne comprends pas. Des patrons chrétiens? Oh, vous n'avez jamais vu de méchanceté. Hein? Des patrons chrétiens sont méchants même. Même leurs frères et sœurs en Christ qui travaillent chez eux. La manière dont ils les traitent. Mais sans cœur, j'allais ajouter ni tête. Parce qu'il y a des choses où le cœur ne marche pas quand même. Il y a la raison qui vous arrête de faire certaines choses. Vous voyez comment ils exploitent leurs frères. Pire que des capitalistes esclavagistes à l'époque d'Abraham Lincoln. Vous font travailler et puis vous donnent un salaire. Et vous ne comprenez pas comment un homme, un frère qui confesse la foi chrétienne ne peut faire des choses comme ça. Vous ne comprenez pas. Mais qui vous dit que si les autres payent 60 dollars, toi tu dois payer 60 dollars? Si les gens produisent assez bien, pourquoi ne pas augmenter leur salaire? Mais si c'est le département, je ne sais pas, si la norme ou la barre est fixée, le SMIG, mais vous pouvez par des primes et d'autres voies faire mieux que les autres. Avez-vous vu toutes ces filles qui sont des bonnes chez nos sœurs et nos mamans de Mangembo? Vous savez combien ils les payent? Vous savez combien ils les payent? Et puis il va vous dire, mais ailleurs on les paye combien? Est-ce que toi tu es ailleurs? Les grâces que Dieu te donne, est-ce que les autres là les reçoivent? L'argent qu'ils dépensent dans les hôpitaux pour leurs enfants. Toi, Dieu protège tes enfants. Pourquoi? Tu ne prendrais pas le supplice qui ira à l'hôpital et ajouter à ta bonne ou à ton domestique. Il y a beaucoup de méchanceté à l'église. Le cœur des gens sont durs. Les gens ne sont pas miséricordieux. Alors que la Bible dit, errez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. L'église, il y a des problèmes sérieux. pas seulement des patrons et ces mamans qui ont des bornes, et même les bornes, et même qui travaillent chez leurs frères, comment ils agissent? Ce sont des voleurs. Frère en Christ chante à la chorale ou au département, je ne sais pas moi, d'intercession, c'est l'enchaîne à tout. Ils parlent en langue. Tu croiras que ce sont des tonnerres ou l'ange Gabriel qui parle. Mais donc, au boulot, ils volent des bois de lait. Voleurs, frère, rabachis, voleurs. Ils trichent comme tout le monde. Quelqu'un dira, parce qu'il est mon frère en Christ, je lui donne la caisse, j'ai confiance. Ce n'est pas à cause de moi, mais la crainte qu'il a de Dieu. Mais tu lui donnes la caisse et tes affaires. C'est lui qui va te mettre en ruine. Il est même capable de comploter avec les gens de l'extérieur pour qu'on vienne te escroquer, te faire du mal. Alléluia. Trouvez une bonne en Christ. Attaque à moi dans Manzaka. Il mange les céréales du bébé et tout, et l'enfant reste affamé. Dit maman, ton cœur est tellement rempli d'amertume. Regarde, ton visage était beau, ça commence à s'avilir. Tes boutons, t'es sorti pas, ça vient d'où? C'est la haine qui est dans ton cœur qui fait pousser ces boutons. Mais c'est vrai, frères et sœurs. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'exagère? Il y a des gens qui regrettent même d'avoir été à l'église. Il y a beaucoup de méchanceté, de jalousie. Vous voyez, j'ai remarqué à l'église, quand quelqu'un a péché, quand quelqu'un a mal agi, et que des gens revendiquent, que les gens parlent et se fâchent, ce n'est pas la justice ni la sainteté qui les fait parler. En réalité, c'est la haine et la jalousie. Très souvent, pas toujours, mais très souvent. C'est vrai qu'il a péché. Mais qu'est-ce que la Bible dit pour les gens qui ont péché? Vous qui essayez de l'aider, faites-le avec quoi? Avec douceur et amour pour ne pas tomber. En voulant aider quelqu'un qui est tombé, toi-même tu risques de tomber. Il y a des gens ici, et ils n'aiment pas entendre certains noms. Dès qu'ils entendent le nom, ça les rend malade. Mais c'est son frère en Christ. Regarde le voisin dans les yeux, qu'il ne fasse pas fuir ses yeux. Regarde le voisin dans les yeux, dites-lui, mon frère, regarde-moi dans les yeux, je suis ton frère. Dites-lui, je ne mérite pas la haine de ta part. Regarde le voisin dans les yeux, ne fais pas fuir ton visage. Dites-lui, je ne mérite pas cette méchanceté. La Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est quoi? De vous aimer les uns les autres. N'ayez pas d'autre dette que la dette d'amour. Cela veut dire, mon frère me doit quelque chose. Et ce qu'il me doit, de l'amour. Regarde le voisin dans les yeux, dites-lui, ce réseau qui m'a mis sur ce suspect. Regarde-le dans les yeux. Dites-lui, tu me dois de l'amour, mon frère. Non, par respect, dites-lui, vous me devez de l'amour, mon frère. Et ça va trop loin, vous voyez. Il y a des hommes qui haïssent leurs épouses. Sa femme a fait quelque chose il y a longtemps. Il a écrit ça dans un carnet. Il y a des gens ici qui sont en colère pour quelque chose qui s'est passé en 96. Et nous étions au jardin Motonamoto. Nous avons quitté là-bas. Il y a des gens qui ne connaissent même pas. Mais depuis 96, son cœur est resté plein d'amertume. Oh, frères et sœurs, il y a une loi supérieure. Je vais vous montrer le chemin par excellence. Les dons spirituels, les charismes, tout ce que nous cherchons, le miracle, le surnaturel, c'est très bon, c'est notre partage en Christ. Mais le chemin par excellence, c'est la loi parfaite de l'amour. Ça, c'est le règne de Dieu. C'est la... Oh mon Dieu, là où il y a l'amour, mais c'est le royaume de Dieu qui agit sans effort. Nous pouvons, frères et sœurs, changer cette ville. Changer nos familles, changer cette nation, si nous nous décidons de nous aimer les uns les autres, de l'amour de Christ. L'amour, c'est une loi supérieure. Vous savez, quand vous aimez, vous devenez un homme libre. Même au-dedans de vous, vous vous épanouissez vous-même. Je ne dis pas qu'on ne vous fera pas du mal. Pourquoi vous garantir ça? Parce que vous-même, vous ferez encore du mal aux gens. Nous vivons dans un monde où rien n'est parfait. Mais la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Cela veut dire là où il y a l'amour, les gens ferment les yeux sur les offenses. Vous avez vu des mamans, comment ils aiment leurs enfants. Son fils a volé, mais lorsque les gens veulent parler, ils disent, ça c'est la loi de l'amour. La loi couvre une multitude de péchés. Nous nous plaignons de tout, surtout des gens qui se plaignent beaucoup. Ils n'ont pas d'amour dans leur cœur. Nous aimons critiquer. Mangembo, ça c'est des conneries. Mangembo a une réputation là-dessus. Les gens aiment et des choses qu'ils connaissent et des choses qu'ils ne connaissent pas, et des choses qui sont vraies et des choses qui ne sont pas vraies. Les gens passent leurs énergies. Je me demande, où est-ce que tu trouves ce temps? Toi qui devais couper, l'amour couvre une multitude de péchés. Vous voyez, c'est Lévite qui aimait sa concubine et elle s'est prostituée. Mais l'homme a quitté. Il n'est pas allé voir sa famille, ses amis pour commencer à raconter. Il est parti chercher la femme. Ça, c'est l'amour couvre. Vous savez, une seule chose qui peut changer cette planète et qui fait d'ailleurs la misère de cette planète, son contraire donc, c'est le manque d'amour. Si vous amenez l'amour véritable, l'amour de Dieu sur cette planète, la terre change. Les habitants de la terre, ce qui nous entretue, c'est que nous n'avons pas d'amour. Nous avons des cœurs durs, des cœurs méchants. Nous avons d'autres ne sont ni méchants, ni durs, mais indifférents. Alors que nous sommes frères et sœurs. Nous devons nous aimer, les problèmes ne finiront jamais. Ça, c'est la garantie que je vous donne au ciel. Là où le Dieu parfait vit, il y a eu des problèmes. Le diable s'est rebellé et dans sa rébellion, il a entraîné les un tiers des anges. Alors que Dieu est parfait. Pour dire que dans aucune famille, dans aucune association, communauté, des problèmes manqueront. Les problèmes, il y en aura toujours. Mais s'il y a l'amour, nous pouvons couvrir nos problèmes. Et nous pouvons nous soutenir. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne point les mal. Tu soupçonnes toujours les autres. Il ne m'aime pas. Il m'a mal regardé. Il ne m'a pas salué. Mais toi, tu salues qui? Merci pour ceux qui acclament. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. La Bible dit, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Combien de gens peuvent être de bénédiction à leurs voisins, à leurs frères? Il y a des problèmes pour lesquels nous entrerons encore en jeûne le mois prochain ou l'autre mois que vous pouvez résoudre. Et des fois au ciel, Dieu s'étonne de savoir que des cris montent vers Dieu alors que le voisin peut résoudre ce que Dieu attend. La Bible dit que des actions de grâce à votre compte. Que des gens disent merci à Dieu pour vous parce que vous avez résolu des problèmes qui devaient être des requêtes de prière. La Bible dit tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. On y va. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même. C'est là la loi et les prophètes. Vous ne voulez pas qu'on vous critique. Pourquoi vous critiquez les autres? Vous trouvez à l'église un groupe de gens se sont arrangés. Dit, ce frère-là n'entrera jamais dans le bureau du pasteur. Comme nous sommes là, c'est nous qui organisons. Lui n'entrera jamais dans le bureau du pasteur. Est-ce que vous comprenez ça? Les accusations gratuites. Il y a des gens qu'on. Vous savez, vous ne connaissez pas le nombre des hommes et des femmes qui ont quitté Mangembo. Mais soyez-en sûrs, Dieu ne leur a fait aucun mal. Mangembo ne leur a fait aucun mal. Mais c'est plutôt le pasteur que je suis. C'est mes assistants. C'est mes anciens médiacres. C'est entre nous. Nous nous faisons tellement du mal que nous avons poussé certaines personnes en dehors de l'église. Il y a des gens qui vous disent, je préfère rester à la maison et prier que d'aller dans ces histoires où... Parce que des déceptions. Lui disait, je dormirai dans l'une des villes des enfants d'Israël. Là, c'est sûr, c'est au milieu de mes frères. Mais regardez ce que ses frères lui ont fait. Beaucoup de gens sont venus innocemment. Vous allez appeler ça la naïveté? Non. Ils savaient que l'église a des choses qui n'arriveront jamais. Mais ils ont été escroqués ici, abusés ici, trahis ici. Et pour eux, frères et sœurs, je vous invite à monter des dimensions. J'invite Mangembo à accéder à la dimension de l'amour. Je ne parle pas de l'amour des hommes, je parle de l'amour de Dieu. Cet amour inconditionnel. À arriver sur cette plateforme où vous sondez votre vie, personne, finalement vous n'haïssez personne. Je par la grâce de Dieu, je ne me vante pas. Mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé à cette dimension-là. Et je vois ma vie s'épanouir. Je suis libre. Je n'ai pas d'amertume, de rancœur. Je ne pense pas à quelqu'un. Je me mets à me fâcher. Je me trouve plus. Il y en a plus. Il y en avait, mais il y en a plus. Des gens que je n'aime pas. Il y en a plus. Et c'est là, à ce niveau, que je vous invite. Vous verrez que beaucoup de sacrifices s'arrêteront, beaucoup de prières ça diminueront, beaucoup de supplications diminueront. Là où il y a l'amour, c'est les reins de Dieu qui viennent et les choses commencent à couler. Qu'est-ce qui fait le succès du ministère de Jésus-Christ? Mais c'est la loi de l'amour. Oh, que Dieu nous accorde miséricorde. Tous les mal que nous avons fait à nos frères, que Dieu enlève ce sort et qu'il nous pardonne. Il y a des gens que nous avons scandalisés. Il y a des gens que nous avons trahis, haïs, rejetés, repoussés. Que Dieu nous pardonne. Mais aussi que Dieu nous donne un cœur nouveau. Que Dieu remplisse nos cœurs d'amour, de miséricorde. Et que l'amour de Christ nous presse. Jacques dit, si ton frère est dans le besoin, et que tu lui dises que Dieu te bénisse, et que tu ne lui donnes pas à manger ou à se couvrir alors que tu paies, à quoi sert cette foi-là? Jacques dit, c'est comme un corps sans âme, une foi sans les airs. Je parle de l'amour, que Dieu nous baptise dans l'amour, que Dieu nous baptise dans l'amour. Vous arrivez au point où quelqu'un parle du mal de quelqu'un. Vous avez une excuse pour lui, vous dites non, certainement qu'il était de mauvaise humeur ce jour-là. Vous trouvez que, oh mon Dieu, et que votre cœur soit pur, vous veillez jour après jour. Ça c'est la loi, Dieu marchera avec vous, je vous assure. Vous sentirez la présence de Dieu, l'onction ce n'est pas seulement des airs de prière. L'onction c'est un cœur pur, un cœur sanctifié. L'onction, en fait, c'est l'amour de Dieu qui habite en vous et qui se dégage en faveur des autres. Ne restez pas torturé dans votre âme. Oh, maintenant que je parle vraiment, s'il y a quelqu'un dans cette assemblée à qui tu ne parles pas, que tu n'as jamais pardonné, qui t'a fait du mal, tu n'attends pas la fin du culte, tu prends ton courage. Sous cette onction, tu te lèves, tu vas le voir. Tu dis quelque chose à son oreille, les choses se règlent. Et Dieu t'amène dans une nouvelle dimension. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Que l'amour, que nous soyons baptisés dans l'amour. Ça c'est la plus grande puissance. Vous voyez l'onction. Vous savez la sorcellerie c'est quoi? L'occultisme c'est quoi? C'est simplement lorsque vous ajoutez la puissance à la haine. Vous avez un mauvais cœur, mais vous êtes trop puissant. C'est ça la sorcellerie. Battez-vous avec votre cœur. Battez-vous avec votre cœur. Battez-vous avec votre cœur. Vous voyez Joseph, ses frères ont fait tout ce qu'ils ont fait. Mais regardez Joseph. Vous pensez que c'était facile? Non, c'était pas facile. Mais battez-vous avec votre cœur. Ce que je dis pour l'église est vrai dans nos familles, est vrai dans tout le milieu où nous évoluons. L'amour va vous faciliter la chose. L'amour va vous donner de la vitesse. L'amour, c'est la loi de Dieu. Là où il y a l'amour, Dieu est là. La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère, celui qui hait son frère, est un meurtrier. Et la Bible ajoute, aucun meurtrier n'a de part dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, aucun meurtrier ne reçoit des choses de la part de Dieu. Pas seulement ici sur la terre. Pourquoi vous vous bloquez vous-même? Il y a des maladies qui disparaîtront ici. Parce que l'amour est un remède pour le cœur. Bon, mais je dois quand même continuer. On est 12 et 30, mais je n'ai pas de choix, je dois continuer. J'ai des choses à dire si tu es fâché de ça. Mais tu ne dois pas te fâcher contre moi, au contraire. Dites amen que je vous entende. Il a pris son cadavre, il l'a mis sous l'âne et ils sont partis. Il arrive chez lui à la maison, à Éphraïm. Il descend son cadavre, il le coupe en 12 morceaux. Peut-être la tête, le bras, le main, 12 morceaux. Et il envoie un morceau à chacune des tribus d'Israël. Il dit, examinez-vous-même la chose. Et lorsque ce colis arrive à chaque tribu d'Israël, les gens font une convocation solennelle. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous, notre Dieu n'est pas Moloch pour exiger des sacrifices humains. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un pensait d'ailleurs que ce morceau de viande qui arrivait, c'était le bœuf que son cousin envoyait. Il n'était plus à préparer. Mais il regarde les doigts, c'est les doigts d'une femme. Convocation solennelle. Et on pose la question, qu'est-ce qui se passe? Le Lévite explique tout ce que je viens de dire là. Comment les gens de Gibeah ont agi. Et il dit, jugez vous-même et décidez de ce qui doit être fait. Les enfants d'Israël disent, mais non, nous ne pouvons pas laisser impunis de telles infamies. Ça c'est souiller le pays. Nous chercherons ces pervers hommes. Nous les tuerons pour ôter le mal du milieu d'Israël. Et ils sont allés dans la tribu de Benjamin. Ils disaient, donnez-nous ces pervers, ces bandits de Gibeah et nous les tuerons. Vous savez, des fois, des gens qui troublent les églises, les familles, les communautés, les villes, les nations ne sont pas nombreux. Des fois, c'est juste 10 personnes. Mais qui salissent la réputation de tout Mangembo. C'est juste 100 personnes qui salissent la réputation de tout un secteur, de tout un territoire, de toute une tribu. Mais les gens de Benjamin disent, mon frère, non. Nous ne vous livrerons pas nos frères. Et ils vont plus loin. Ils s'arment pour combattre les restes des tribus d'Israël. Et nous avons lié avec vous les inventaires de chiffres. Les autres tribus d'Israël alignaient 400 000 hommes de soldats. Pas de choristes. Des soldats, des hommes bien préparés à la guerre. Et ceux de Benjamin alignaient une 26 et quelque chose. Et le combat s'engagea le premier jour. Et les gens de Benjamin, avec leur élite, les 700 là, ils tuèrent 22 000 des enfants d'Israël. Et vous voyez, des fois la vie est drôle. Plusieurs d'entre vous, d'entre nous plutôt, Dieu m'a dit, sont à ce point là. La cause est bonne. Vous avez raison. Vous avez l'ainsi parle l'Éternel. Les autres ont tort. Mais vous vous engagez et c'est eux qui gagnent la bataille. Ça c'est révoltant, n'est-ce pas? Pas seulement que votre cause est bonne. Pas seulement que vous avez l'aval de Dieu. Mais en nombre, vous êtes aussi plus nombreux. Autant de fois plus que 20 fois plus. Mais ils tuèrent 22 000 hommes. S'ils n'avaient pas consulté l'Éternel, quelqu'un dirait qu'ils sont partis sans l'aval de Dieu. Dieu leur a dit montez, et Dieu précise que Juda montera le premier. Parce que Juda, c'est eux qui font descendre la présence de Dieu. Il ne vous est jamais arrivé, moi, à plusieurs reprises, où Dieu est de votre côté, vous avez raison, mais vous perdez la bataille. Et vous n'avez plus aucune explication. Vous dites, finalement, dans mon cas, qu'est-ce qu'il faut? Peut-être qu'il faut attendre jusqu'à ce que nous allions au ciel. Il n'y a plus de solution à ces problèmes. Parce que je fais tout ce qu'il faut faire. Je crains Dieu. J'ai raison. Dieu m'a donné sa parole. Le prophète a déclaré. Mais les résultats contredisent tous les restes. Mais les enfants d'Israël ne se sont pas découragés. Ils sont retournés à la source. Auprès de l'Éternel. Ils l'ont invoqué. Ils ont pleuré. Ils ont gêné pendant toute une journée. En train de pleurer. Et au bout, il demande à Dieu, nous devons monter encore contre les enfants de Benjamin, notre frère, ou nous devons renoncer. Ainsi dit l'Éternel. Kelly, montez encore. Tu entends, Kelly, ce que Dieu dit. Montez encore et attaquez-les. Et ils montent. Ça, c'est la deuxième bataille, le deuxième jour. Et lorsqu'ils arrivent, les enfants de Benjamin tuèrent encore 18 000 hommes. Ça fait un total de combien? Pour des gens qui ont raison, dont la cause est correcte, Dieu est avec eux. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ça m'arrive, moi, des situations où je me demande, mais Seigneur, finalement, toi, tu es comment? Ça ne vous est jamais arrivé, hein? Ou tu sais, sur toute la ligne, que ça ne devait pas donner ses résultats. Cette fois-ci, ça devait marcher. Mais ça ne marche pas. Et les enfants d'Israël reprirent courage. Ils retournèrent encore auprès de l'Éternel, firent tout ce qu'ils avaient fait avant. Plairèrent, prièrent, gênèrent. Et cette fois-là, Phinéas, le souverain sacrificateur, petit-fils d'Aaron. Parce qu'Aaron, son fils, c'était Éléazar qui l'a remplacé. Maintenant, Éléazar est mort, c'est la génération de Phinéas qui est souverain sacrificateur. Cette fois-là, il est là. Il élève un autel. Il dit au peuple, amenez des holocaustes, c'est-à-dire des animaux qu'on brûle entiers. Amenez des sacrifices d'action de grâce. L'action de grâce, on rend ça après la victoire, après la réussite. Mais il demande ça. D'avance, il élève un autel, il offre à Dieu. Et Dieu dit, montez, combattez-les encore. Mais la première fois, tu avais dit, montez, ils nous ont tués. La deuxième fois, ils nous ont tués. Ils obéirent, ils allèrent encore. Et je suis venu dire à quelqu'un, pour cette deuxième partie de l'année, Dieu m'a envoyé comme souverain sacrificateur de ces lieux. Quelles que soient les batailles que vous avez perdues, montez et allez-y encore. Vous pouvez perdre autant de batailles, mais l'essentiel c'est de gagner la guerre. J'ai dit, vous pouvez perdre autant de batailles, mais l'essentiel c'est de gagner la guerre. Je ne sais pas quelle bataille vous avez perdue depuis le mois de janvier. Nous sommes en plein dans la deuxième partie de l'année. Depuis le 1er juillet, avec ce jeûne que nous avons fait le vendredi, on est entré dans la deuxième partie. Et je t'assure, tu as perdu des batailles, je n'en dis qu'on ne vient pas. Tu as des cicatrices et des marques, tu portes des blessures, je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais la guerre, toi tu la gagneras. Le prophète déclare que tu la gagneras. Oh, je suis en train de dire, au nom de Jésus, tu la gagneras. C'est pourquoi cette semaine est là, la première du mois de juillet. Une semaine dangereuse où nous aurons 5 réunions dangereuses clôturées par la Sainte Seine pour te permettre de renverser des situations qui ont longtemps duré. Je parle à quelqu'un qui a perdu sur le plan de la santé, quelqu'un qui a fait tout ce qu'il faut faire, mais les affaires ne marchent pas, les études ne marchent pas. La destinée est obscure, les choses ne semblent pas répondre selon les promesses que Dieu a données. Cette fois-ci, je déclare que ça marchera. Oh, tu n'entends pas, ça marchera au nom de Jésus. Et cette fois-là, ils arrivèrent. Et les gens de Benjamin tuaient 20 hommes. Et puis ils se dirent comme les autres fois. Des fois, les ennemis se disent comme les autres fois. Cette fois n'est pas les autres fois. Je dis à quelqu'un, cette fois-ci, tu n'avorteras plus. Cette fois, tu concevras, ça se développera, tu toucheras. C'est le prophète qui parle. Croyez à ce prophète et vous prospérerez. Cette fois, tu toucheras ton bébé. Cette fois, tu toucheras, signeras ce contrat. Cette fois, tu toucheras cette montagne. Cette fois, tu entreras. Nous sommes de la génération de ceux qui violent des frontières, de ceux qui dépassent les lignes interdites. Entre de l'autre côté. Fais-le avec moi. J'entre de l'autre côté. Ça peut pas continuer de cette façon là sinon Dieu n'est plus Dieu. Il y a des choses qui doivent changer et j'ai la parole de Dieu. Je sens Dieu dans la maison. Quelqu'un sera guéri d'une maladie de plusieurs décennies. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un qui est quelque part là. Je n'ai pas de précision, mais quelqu'un recevra la guérison. Maintenant je parle la puissance de la guérison. Va entrer et sois au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Et pourquoi avons-nous raison? Pourquoi la cause est bonne? Pourquoi nous sommes plus nombreux et Dieu a donné des dons spirituels? Pourquoi la révélation est sortie si nous devons perdre encore? Cette fois, tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas cette fois. Ce qui te combat dans ton travail, cette fois-ci. Oh mon Dieu. La bataille la plus déterminante est la dernière bataille. Tu la gagneras. Je déclare que tu la gagneras. Tu la gagneras. Oh mon Dieu, tu n'entends pas. Tu gagneras cette bataille. Et la guerre, c'est toi qui auras les trophées. Au nom de Jésus. Oh, je sens Dieu dans la maison. Cette semaine, ça sera extraordinaire. Des choses commencent. Il y a des gens qui vont m'écrire des textos avant le mardi. Parce que leur miracle sera arrivé. Celui qui te combat au service, c'est quoi être le plus fort? C'est lui qu'on va virer. C'est lui qu'on va virer. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Et les enfants d'Israël remportaient la victoire. Ils mirent une embuscade, une stratégie divine qui marcha. Ils remportèrent la victoire. Même Banamabé, les hommes les plus dangereux, s'enfuirent. C'est là qu'ils ne pouvaient pas rater un seul chevet avec leurs pierres. Mais parce que les choses tournèrent, ils s'enfuirent pour se cacher. Même les plus forts vont s'enfuir. Et j'aime comment la Bible a mis l'emphase dans cet endroit. Et l'Éternel bâtit Benjamin. C'est pas Israël qui le... Cette fois, ça sera pas toi. L'Éternel battra tes ennemis. L'Éternel battra cette maladie. L'Éternel battra cette situation. Crois-moi, je te l'annonce au nom de Jésus. Tu me ramèneras un témoignage. Les autres fois, c'était toi sur l'ordre de l'Éternel. Mais cette fois, ça sera l'Éternel lui-même. J'ai dit les autres fois, c'était toi sur l'ordre de l'Éternel. Mais cette fois, ça sera l'Éternel. Et c'est différent. Toi sur l'ordre de Dieu, c'est différent. Quand Dieu lui-même, comme disait l'ancien Guy, il n'y a devant lui ni intelligence, ni sagesse, ni conseil. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'État. Il te donne cette victoire. Je prophétise pour la deuxième partie de l'année. Oh mon Dieu, des choses tourneront à ta faveur. Gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Nous le bénissons pour ce que nous avons reçu. Oh, tout au long de la première partie de l'année. Mais le meilleur est à venir. Le meilleur est en train de sortir du dépôt. Je t'annonce que tu vas franchir des frontières que personne dans ta famille n'a franchi. Tu vas dépasser des lignes. Personne dans ton quartier n'a dépassé. Tu vas faire des choses. Personne dans ton travail ne l'a fait. Reçois ces paroles et crois à ces paroles. Ça s'accomplira dans ta vie. Je les déclare. Au nom de Jésus, recevez. L'Éternel prendra ta revanche. L'Éternel lui-même prendra ta revanche. J'ai dit l'Éternel lui-même prendra ta revanche. Oh, des gens qui te bousculaient t'acclameront. Ils te célébreront. Parce qu'on ne te verra plus. C'est l'Éternel qui entrera en jeu. Cette fois-ci. Tu m'écriras en disant, t'as dit ça marche. Tu m'écriras en disant, t'as dit ça marche. Ton témoignage sera extraordinaire. Les gens vont aimer ce que Dieu va faire dans ta vie. Même des gens qui sont indifférents, qui n'acclament pas trop, se lèveront pour acclamer Dieu à cause de ce qu'il fera dans ta vie. Est-ce que tu crois à ces paroles? Est-ce que tu crois à ces paroles? J'autorise à ces paroles d'aller dans ta vie, de mettre de l'ordre, de frayer le chemin, de t'amener le contrat au nom de Jésus. Oh mon Dieu, j'ai envie de prêcher, j'ai envie de prêcher. Je sens la gloire monter dans la maison, je sens Dieu dans la maison. Cette semaine, c'est extraordinaire. Je vois des jougs tomber, des batailles impossibles être remportées. Parce que ce n'est pas... Les gens posent la question, comment tu l'as gagné? Tu leur diras, c'est pas moi, l'Éternel l'a gagné. Oh, c'est l'Éternel qui... Oh, yes! Yes, tu diras, c'est l'Éternel qui l'a... Dites au voisin, et l'Éternel bâtit Benjamin, l'Éternel bâtit Benjamin. Répète-le à trois personnes, et l'Éternel bâtit Benjamin. Remplace-les par tes ennemis, tes problèmes. Dites, l'Éternel bâtit la maladie, l'Éternel bâtit la crise. Et l'Éternel bâtit. Et l'Éternel, que cela arrive. Ainsi, au nom de Jésus. Tape la main du voisin, dis ça marche, ça marche, ça marche. Dites au voisin, les plaies peuvent durer toute une nuit. Dites aux voisins, les plaies peuvent durer toute une nuit. Mais quand le matin se lève, le soleil brillant de la justice apporte les relèvements. Oh yes! Reçois des forces nouvelles. Reçois des énergies nouvelles. Reçois un élan nouveau pour cette deuxième partie de l'année. Au nom de Jésus. Mettez-vous. Mais il y a quelque chose qui m'énerve quand même, qui continue à m'énerver, qui me dérange. Vous savez c'est quoi? Demandez-moi c'est quoi? C'est les 40 000 qui sont morts. On a remporté la victoire, c'est vrai. Les choses ont changé. Mais nous le célébrons avec les dés des 40 000 personnes. Et ça me dérange. Dites au voisin, ça dérange Daddy. Est-ce que l'Éternel ne pouvait pas éviter ça? Pourquoi les gens doivent mourir 40 000 alors qu'ils ont raison? Parce que là, c'est bon, ils remportent la victoire. Mais il y a un cousin qui est tombé, un frère, un ami de l'enfance, un collègue avec qui on est resté dans les casernes de longs mois qui est parti. Nous avons la victoire, mais nos morts, 40 000, c'est beaucoup. Et pourquoi nous devons toujours vaincre au prix des sacrifices, toujours gagner après des plaies? Est-ce que c'est comme ça que ça marche toujours dans ce royaume? Pourquoi ils ne pouvaient pas gagner la première fois et épargner toute sa vie? Parce que la cause qu'ils défendent est bonne. Parce que Dieu a donné des instructions. Et en plus, ils étaient plus nombreux. Ça continue à me déranger. Ça me dérange. Et j'examinais des textes. Et vous l'avez vu. Lorsque nous avons lu, c'est que la première fois et la deuxième fois, ils ont fait tout ce qu'il faut faire. Mais à la troisième fois, ils ont fait des choses qui ne se trouvent pas la première fois. Voilà les deux choses. Si elles étaient faites la première fois, on aurait évité les 40 000 morts. On aurait évité cette escroquerie qui a tout écroulé. C'est vrai, Dieu a restauré. Mais vous savez, heureusement, c'est lui qui remplace les années que les autres l'ont dévoré. Mais l'amertume, c'est les 40 000 personnes qui sont mortes. Parce que la troisième fois, vous voyez la première fois, ils ont gêné. C'est ça, pleurer devant l'Éternel toute une journée, c'est ça. En Israël, lorsqu'on pleure, on déchire, on porte les sacs, on humilie son âme. C'est ça les gênes. Ils ont prié. Ils ont raison. Ils ont invoqué Dieu. Dieu a parlé. Et la deuxième fois. Mais la troisième fois, ils ont ajouté des choses. Et vous l'avez vu. La première chose, Finé est venu. La première fois, il n'était pas là. Et la deuxième fois, il n'était pas là. Finé, c'est qui? C'est le gardien de l'hôtel. Dites au voisin, le gardien de l'hôtel. Je n'entends pas. Dites au voisin, le gardien de l'hôtel. Finé est venu. Ils l'ont fait venir la troisième fois. Et la deuxième des choses, il a élevé un autel. Il a mis des sacrifices et des holocaustes. Ce qui n'avait pas été fait la première et la deuxième fois. Si vous faites des choses de la même manière, dans les mêmes circonstances, vous aurez les mêmes résultats. A dit l'ancien président Bill Clinton. Et il a raison. Des éléments nouveaux doivent entrer en jeu pour que des résultats changent. Ils ont amené Finé, le gardien de l'hôtel. L'hôtel a été élevé. Ils ont mis des holocaustes. Des animaux qu'on brûle entiers, on n'enlève rien. Jusqu'à ce que ça se consume en cendres. Tout c'est la part de Dieu. Même les sacrificateurs n'ont rien dedans. Mais ils ont fait aussi des sacrifices d'action de grâce. Ce qu'on fait normalement après une victoire, après une promotion, après un témoignage. Ils l'ont anticipé sur l'hôtel. Et les deux choses qui manquaient a changé le cours des événements. J'ai maintenant la réponse à mon équation. Si c'était fait la première fois, les 40 000 n'allaient pas tomber. Les 40 000 n'allaient pas tomber. Et c'est ça le problème de la plupart d'entre nous. C'est ça le problème. Nous gênons, nous prions. Nous avons les directives de Dieu. Nous avons raison. Nous craignons Dieu. Mais il y a des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? J'ai dit ce matin à l'église. Parce qu'il y a des victoires qu'on ne remporte jamais. Même si on a raison. Même si on est fort. Même si on est sage. Même si on a gêné. Même si Dieu a parlé. Il y a des victoires qu'on ne remporte jamais. Parce que n'oubliez pas. Les 700. Des gens capables de mettre en déroute même l'ainsi dit l'Éternel. Oh mon Dieu, c'est des gens comme. Ces gens sont dangereux. Comme Akitofel. Des gens capables de mettre. Mais Dieu a parlé, allez, que Juda monte. Mais parce qu'ils sont là, ils bouleversent tous les calculs. Il y a des batailles comme ça, frères et sœurs, dans la vie. Il y a des batailles dures dans la vie. Et pour des batailles dures, la solution c'est quoi? C'est de les vendre à l'Éternel. Donnez-les à Dieu. Retirez-vous de la bataille. Donnez la bataille à Dieu. Cédez-les à Dieu. Que Dieu achète le combat. Parce que lui n'a jamais perdu de combat. Il est l'Éternel des armées. C'est pourquoi je te prêche sur la miséricorde et la grâce. Parce qu'il y a des choses que tu ne feras jamais. Quel que soit tout ce que tu as appris, tout ce que je t'apprendrai, quel que soit toute l'onction, mais il y a des choses qui ne marcheront toujours pas. Il faut que ce soit Dieu lui-même. Tu as entendu l'archange Michael, lorsqu'il disputait le corps de Moïse, il a dit à Satan, je vais t'écraser, maintenant tu vas voir. Non. Il a dit que l'Éternel te réprime. Même l'archange Michael introduit Dieu dans cette bataille. Et plus tard, Jude explique, c'est à cause du respect de la hiérarchie des positions célestes. Il y a des combats qu'il faut céder à l'Éternel. Et comment on cède le combat à l'Éternel? C'est lorsque tu associes les gardiens de l'autel. C'est lorsque tu élèves un autel pour des sacrifices. Cela veut dire les 40 000 personnes qui sont mortes, leur vie pouvait être rachetée par des animaux sur l'autel. Simplement, et que ce soit un troupeau d'un million d'animaux, qu'est-ce que c'est là par rapport à la vie humaine? Ce sont des gens qui font ces choses, n'est-ce pas? Frères et sœurs, il y a des gens qui sont là et qui se posent la question. Dieu est en train de vous répondre. Écoutez, Dieu est en train de dire une chose ce matin, cet après-midi, qui change les restes de votre vie. Parce qu'en fait, la révélation, je vous ai dit, est progressive. Une révélation t'amène jusqu'ici. Mais pour aller là, une autre révélation t'amène là. Et il ne sait pourquoi la Bible dit, nous connaissons en partie. Et Dieu nous révèle progressivement. Qui me disait, il y a quelques semaines, que si je t'avais rencontré il y a 2 ans, 3 ans, je serais très loin, ma vie serait très loin. Pas moi, en fait. Il voulait dire des choses que j'écoute maintenant. Si je les avais écoutés il y a 2 ans en arrière, il dit, oh, où est-ce que tu étais? J'ai parlé de l'ordre de Melchisedec. Oui, frères et sœurs. Écoutez, le principe est simple. Le principe est celui-ci. Une association démoniaque, satanique et diabolique conspire pour détruire la vie de ma sœur. Et le niveau de batterie et tout ce qui est engagé dans la bataille ne lui permet pas de remporter cette bataille. Et la sœur comprend le principe, comment céder une bataille à l'Éternel. Elle décide, au lieu qu'elle meure, elle décide de tuer quelque chose qu'elle a. Elle peut avoir un projet de commencer le commerce et son projet a totalisé un 2000, un 1000 dollars ou même un 100 dollars. Ça, c'est un projet qu'elle a. Elle est en train d'élever ça. Mais lorsqu'elle sait que sa vie est en danger, elle prend les 100 dollars. Donc en réalité, ce n'est pas 100 dollars, c'est son projet. Il vient le mettre sur l'autel, il le tue. Maintenant, le Dieu de justice l'interprète de cette manière. Il dit, mais deux choses ne peuvent pas mourir à la fois pour un même problème. Elle devait mourir, mais je vois là un projet mourir. Donc sa vie devient épargnée. Oh mon Dieu, ça c'est la puissance de l'autel. Mardi, je parle de la gloire de l'adoption. Mais aujourd'hui, je commence avec la puissance de l'autel. Je vous ai raconté ici, je pense au deuxième culte également, il y a très longtemps, c'est ses frères, son oncle me menaçait en disant, je vais te tuer, et cet oncle avait droit de parole. Vous voyez des personnes, quand ils disent des choses arrivent, il y avait des preuves dans la famille, nous en avons tous comme ça dans nos quartiers, nous connaissons des histoires un peu comme ça, des gens qui ont un pouvoir, ils disent une chose, la chose arrive, le pouvoir occulte bien sûr,